Donc, nous allons démarrer la deuxième table ronde qui est consacrée à des artistes collectionneurs, donc des créateurs. Et l'originalité de cette table ronde, c'est que justement, on oublie toujours de penser que les artistes sont eux-mêmes des collectionneurs et pas seulement de leurs propres œuvres, évidemment. J'ai la chance d'avoir autour de moi des grands artistes, c'est le cas de le dire, physiquement, mais pas seulement. Emmanuel Réjean, Jean-Pierre Reynaud et Laurent Fievé. Et donc, chacun, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous parliez de votre rapport à la collection. Donc, pas les collectionneurs qui vous collectionnent, mais ce que vous, vous collectionnez. Donc, vous avez évidemment beaucoup d'histoires passionnantes à nous raconter autour de cela. Et on va voir comment les artistes, eux aussi, vivent avec la collection, s'ils vivent avec, d'ailleurs. Et puis, peut-être la question qu'on va pouvoir se poser en préambule, c'est savoir si vous-même, vous êtes aussi malade que les trois collectionneurs que nous venons de rencontrer. Donc ça, c'est la première chose. En tout cas, il est certain que les artistes qui collectionnent, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque, pour citer un exemple parmi tant d'autres, Degas, dans les dernières périodes de sa vie, rue Victor Massé avait 3 appartements. Donc ce n'est pas une collection d'appartements, mais c'est une collection d'œuvres, vous allez voir. Puisque dans le premier appartement, il y vivait avec sa domestique. Dans le deuxième appartement, il travaillait, donc c'était son atelier. Et entre les deux, il y avait un appartement qui était consacré à sa collection. Sa collection qui était présentée la plupart du temps sur des chevalets. Et il collectionnait peinture, dessin, et il collectionnait notamment beaucoup d'œuvres de Ingres, qui était le maître qu'il admirait particulièrement et avec qui il avait engagé un dialogue qui l'avait incité à devenir artiste lui-même. Et donc, il avait des œuvres de Ingres, il avait des œuvres de Manet également, et notamment une œuvre de Manet qui était une grande toile qui avait été découpée en plusieurs morceaux et qu'il a acquis en plusieurs morceaux. Et il avait également des œuvres d'artistes qui lui étaient contemporains, que l'histoire n'a peut-être pas forcément tous retenu, mais ça signifie qu'il s'intéressait à l'art de son temps, à ses contemporains, et donc c'est exactement ce que nous avons ici réuni. Donc peut-être je vais vous donner la parole l'un à la suite de l'autre rapidement pour présenter un petit peu votre collection et votre manière de collectionner. Et peut-être pour commencer avec Laurent Fievé, alors pour compliquer les choses, c'est que Laurent n'est pas seulement artiste, n'est pas seulement collectionneur, mais il est également à la tête d'une collection d'entreprises. Donc peut-être tu vas pouvoir nous parler de ces deux volets-là.
Oui, donc je suis collectionneur à titre personnel, donc ça vous arrivez à peu près à visualiser ce que ça peut donner, vous avez eu des exemples précédemment. Pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est vraiment pathologique et compulsif. Donc je me situe vraiment dans une forme de pathologie par rapport à ce principe de la collection, sachant que ça n'est pas le seul élément qui caractérise cette position. Je suis très content d'être collectionneur, mais pour moi c'est quelque chose quand même d'assez sombre de ma personnalité, quelque chose que j'essaie d'analyser, pas par des moyens psychanalytiques, mais je pense que ça relève vraiment de la psychanalyse. Bon, je passe parce que je réponds à ta question. Par ailleurs, comme Isabelle l'a dit, je dirige un fonds d'art contemporain qui est lié à une entreprise, et ce fonds à des gérants qui ont pris la décision de vouloir avoir une collection. Donc je m'occupe aussi de cette collection d'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de mettre en œuvre une collection avec une dimension institutionnelle et bien entendu avec des aspects qui sont et des mécanismes qui sont très différents de ceux que je mets en œuvre pour établir ma propre collection, à savoir qu'il y a un budget, il faut rendre des comptes à des gérants, il y a une forme de représentativité qu'il faut respecter, il y a quelque chose de beaucoup plus pensé, cohérent, il s'agit de rendre compte des valeurs qui ne sont pas les miennes, hein, mais celles d'une entreprise. Donc, bien entendu, les réflexes de la collection pour l'entreprise ne sont pas nécessairement les mêmes. Quand j'acquiers pour ma collection, je n'ai pas un comité qui est derrière moi qui me dit si je dépense mon argent correctement. quand je le fais pour l'entreprise, il s'agit de rendre des comptes et je peux vous dire que c'est pas très simple. Souvent, on vous dit mais pourquoi tu achètes un piano ? Pourquoi on achète un piano à ce prix-là ? Voilà, j'ai vraiment des conversations de ce type-là. Mais l'œuvre a un piano, elle fonctionne avec un piano, donc il faut bien un piano, qu'on acquiert un piano pour la présenter. Oui, mais c'est de l'art contemporain. Bon, bref. J'ai pas à rendre de compte, ce qui est beaucoup plus simple, hein, et je peux dépenser l'argent que je veux si je l'ai pour ma propre collection, ce qui n'est pas le cas d'une collection d'entreprise. Donc c'est pas du tout les mêmes enjeux, la collection personnelle relevant d'enjeux beaucoup plus légers, beaucoup plus peut-être plus impulsifs, plus intuitifs, je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas beaucoup plus de liberté quant aux choix effectués et quant aux sommes qui peuvent être dépensées dans ce contexte-là.
Alors Jean-Pierre, tu peux nous parler aussi de la façon dont tu collectionnes et ce que tu collectionnes, puisque c'est assez particulier aussi.
Oui, là on est tous présentés comme des particuliers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent et qui collectionnent tout simplement. Moi je suis artiste comme nous du reste et... c'est déjà un travail à plein temps, donc je ne suis pas collectionneur. Moi, je veux bien assumer le terme collection, mais non, je ne suis pas collectionneur. Je suis simplement quelqu'un qui a eu un coup de cœur. Ça peut arriver même à un artiste. Il se trouve qu'au début des années 60, je commençais à faire de l'art. J'ai fait une exposition à Milan, à la Galerie Apollinaire, dont le patron était un homme très connu, qui s'appelait Lenucci. Et qui a présenté la première exposition d'Yves Klein, les Manzoni, les Fontana, etc., etc. Et comme j'avais 25 ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette chose à Milan. J'ai donc construit mon exposition. Et puis, à un moment, pour construire mon exposition, il fallait descendre à la cave pour chercher, je ne sais plus, des clous ou un marteau, quelque chose comme ça. Et je suis descendu dans cette cave. Il n'y avait pas d'électricité. C'était un homme qui était assez radin. Et je peux dire que voilà, il n'y avait pas le courant. Et je suis descendu à la cave avec une bougie. Et là, j'étais dans une sorte de terrain vague, d'endroit absolument improbable. Et il y avait des tas de choses. Et en particulier, j'ai vu qu'il y avait un tas de chiffons. Mais qui m'a ébloui tout de suite, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que je n'osais pas appeler une œuvre à ce moment-là, qui était un Gérard Deschamps. Alors bien sûr, ne pas confondre avec Marcel Duchamp, Gérard Deschamps, les nouveaux réalistes. Et j'ai eu un véritable éblouissement. Pour moi, c'était comme si je voyais un Vermeer, carrément, dans la pénombre, au milieu de détritus et de choses vraiment absolument qu'on ne s'attend pas à trouver dans la cave d'un collectionneur, c'est pas l'idée qu'on en a, et ça m'a complété. J'ai vu cette chose-là et je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais ça c'est quelque chose qui me paraît important. Et quand ensuite on a fait notre deal pour cette exposition avec le marchand, et qu'il m'a dit, moi je prends telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre, alors je lui ai dit, écoutez, moi je vous demande une chose, je vais récupérer l'œuvre qui est dans la poubelle là, et peut-être que je serais très heureux et tout ça. Et il s'est précipité très heureux de vendre cette œuvre qui était dans la poubelle. Et donc, ça a été la première œuvre que j'ai achetée. Et 55 ans plus tard, j'ai continué toute ma vie à acheter ces œuvres. L'artiste est encore vivant. Il a un an de plus que moi. Il a 80 ans. Et je ne lui ai jamais acheté directement les œuvres. Je le connais. On s'apprécie. Mais je ne voulais pas qu'il y ait cette relation d'artiste à artiste émotionnée comme ça. Donc je les ai toujours achetés, distanciés, que ce soit dans des ventes, chez des marchands et tout ça. Et je me suis retrouvé avec cette passion-là en me disant, peut-être que cet artiste, c'est presque une relation amoureuse, je me suis dit, c'est tellement fort, c'est peut-être même plus fort que ce que je fais. Donc quand on est jeune et qu'on se pose ces questions quand on était artiste, c'est... Faut assumer aussi, je me suis dit. Et là, donc, je ne sais pas, j'ai fait une chose qui ne se fait pas. Je me suis dit, la seule chose que j'achèterais pour montrer que cette œuvre est forte, c'est d'acheter, chaque fois que je verrai un Gérard Deschamps historique, j'essaierai de l'acheter. Tout ça. Et donc, j'ai passé une partie de ma vie à acheter un artiste improbable qui n'est pas aussi connu que ça aujourd'hui, mais ça, j'en ai rien à faire, et, mais en tous les cas, qui est représenté aussi dans des musées, et qui est une œuvre que je permets d'être un témoin pour continuer à... Parce que, étonnamment, vous voyez, c'est pas ce qu'on met dans un salon. On peut mettre de la vidéo, peut-être, mais on met pas ça, quand même, dans un salon. Et c'était pas la provocation, c'est simplement que j'ai trouvé chez cet homme une fraîcheur, une sorte d'enfance, de geste simple, quelque chose, et de dérisoire comme ça, qui me paraissait très très important. Et avec le temps, donc 55 ans plus tard, aujourd'hui, bon, je suis très heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai pu vivre à travers mes expériences, mais je reste convaincu, en tous les cas, il y a une chose dont je suis certain, de mon œuvre peut-être, mais en tous les cas, d'avoir peut-être contribué à rendre une œuvre, à avoir réussi quelque chose, peut-être vis-à-vis d'un autre artiste. Mais ce n'est pas une collection, vous l'avez compris, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose, et je m'arrangerai pour que ces choses ne soient pas divisées. Mais je n'ai pas non plus envie de faire des fondations ou des machins ou des trucs, parce que pour moi, tout doit disparaître, que ce soit dans 5 milliards d'années ou tout ça, le Louvre, la Victoire de Samothrace et le reste. Donc là, au moins, jusqu'au dernier jour de ma vie, ces œuvres resteront protégées, intactes, dans un coin. Et puis ensuite, Inch'Allah, elles vivront ce qu'elles doivent vivre après moi. Voilà.
Et alors, c'est une coïncidence, mais est-ce une coïncidence? Emmanuel Régeot a une histoire de cave à nous raconter aussi.
Oui, une histoire de cave, mais toi, dans le... déjà, pour parler de ma...
Approche bien le...
Non, il faut que tu le mettes.
Ouais, voilà. On entend, là?
Oui. Oui, je ne me sens pas collectionneur. En tout cas, je ne me sens pas malade. Donc, est-ce que... Je me dis, artiste, c'est déjà pas... Alors, c'est plus une collection, en tout cas principalement, classique pour les artistes d'échange. Avec d'autres artistes que j'apprécie. Moi, je vois plutôt ça comme des moments... Alors, si je suis malade, c'est comme un asthmatique. C'est qu'il y a un moment où je ne peux plus respirer avec mon travail. Donc, j'ai besoin de regarder celui des autres. Et ça m'aide à respirer. Donc, chez moi, il n'y a absolument rien qui m'appartient. Oui, il n'y a rien de mon travail. Donc, c'est principalement des échanges. Avec des gens de toute génération, c'est aussi des achats. Alors des achats, j'en ai pas vraiment les moyens, mais je me suis arrangé avec ma galeriste qui, à chaque fois qu'elle vend, Caroline Smulders, à chaque fois qu'elle vend un de mes dessins ou une pièce, elle envoie un petit chèque sur ma part, à une galerie, sur une des œuvres que j'ai réservées, ce qui fait qu'au bout de 3-4 ans, je me suis retrouvé avec un petit chapeau de Gazurovski ou avec un timbre bleu de Klein et l'invitation d'Iris Claire. Donc voilà, c'est autant des... Et puis non, alors c'est là où c'est peut-être... Enfin, c'est le hasard, oui, puisque je ne savais pas que Jean-Pierre était invité à ce colloque. Et enfin, je l'ai lu évidemment, mais... Mais j'ai aussi une histoire de cave à raconter, c'est-à-dire l'histoire de ma première œuvre, entre guillemets, si on peut dire que c'est une collection. J'étais très jeune, j'avais pas 20 ans, et j'étais dans une école prépa avant de faire les beaux-arts. Et je me suis retrouvé à faire l'assistant pour un artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Daniel Graffin, qui avait été invité par Jean Clerc en 95 à participer à la Biennale de Venise avec des sculptures qui étaient faites avec des systèmes de parapente et qui étaient montrées dans la lagune, donc dépendantes du vent, c'était très beau, ça reprenait les coiffes de Piero da Francesca, je crois que c'est les ambassadeurs, et donc ça s'élevait comme ça avec le vent. Et donc je suis resté un mois et demi en 95 à Venise, et ces coiffes-là, on les rangeait, donc ça se repliait comme des parapentes, et on rangeait ça dans les caves du pavillon. Et un jour, en rangeant, en rangeant les sacs, au fond de la cave, je vois quelque chose qui m'intrigue un peu dans la poussière. Donc, ça rejoint un petit peu ton histoire. Et je vois comme ça deux cartons, un éventré, avec des carreaux au sol qui partent. Et je vois sur ces carreaux des crânes. Et là, bon, je comprends que c'est des restes de la biennale précédente. un artiste Jean-Pierre Reynaud, qui avait cassé sa maison, vous connaissez tous l'histoire, et moi à ce moment-là, ça m'avait, mais j'ai pris une claque dans la tronche, tout jeune, c'était une des... on ne savait pas, il ne le sait pas, il le sait pas, mais... Donc, et c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, Philippe, je te disais, ça va être marrant. Et donc du coup, je me suis senti obligé de repartir avec ces carreaux-là. C'était devant moi, personne ne le savait. Je pense que tu avais dû dire à tout le monde de casser tout. Absolument. Et de ne rien garder, surtout. Donc, j'en ai pris 4, personne ne l'a vu. Et je les ai gardés comme ça, et j'ai déménagé de nombreuses fois, parce qu'entre 18 et maintenant, je les ai toujours gardés avec moi. Ça a été vraiment quelque chose qui est encore maintenant très important. Et une fois... Je ne sais plus à qui je raconte cette anecdote, et on me dit « Ah, mais t'es fou !» et tout ça, parce que je me suis dit « Je vais aller lui en parler. » À l'époque, je ne te connaissais pas. Je vais lui en parler. Quelqu'un m'a dit « Mais surtout pas! Mais t'as vu, ce mec, il a cassé sa maison, il va te casser la gueule. » Surtout pas. Et donc, bon, j'ai mis du temps, et il se trouve qu'on a été... On a participé à plusieurs expos plusieurs fois, et un jour, tu t'en souviens, je t'en ai parlé.
Oui, absolument.
Et donc voilà, c'est aussi une anecdote de cave. Et c'était ma première œuvre d'art, première pièce, comme ça très marquante. Mais j'en ai volé qu'une. Hein. Disons que parce qu'après, c'est une autre maladie, la kleptomanie. Donc principalement, ce sont des échanges ou alors des achats. Mais des échanges principalement, ouais, quand même. Alors ça peut être Jeanne Susplugas. Qui m'a échangé un biberon pour la naissance de ma fille, ça c'est une anecdote aussi avec Robert Longo qui vient un jour des États-Unis, mais qui se retrouve dans le showroom de ma galerie et qui flash sur une de mes pièces et qui veut l'acheter, donc je suis très content, mais je le sais pas à ce moment-là. Et puis, ma galeriste, donc Caroline Smither, me dit, écoute Emmanuel, pour gagner, parce que évidemment, ce n'était pas grand-chose en termes d'argent, ce n'était pas non plus une très grosse pièce, elle me dit, propose-lui un échange. Alors, je lui ai proposé un échange. Et puis, il est reparti, c'est un boomerang en verre. Bon, il est reparti à New York avec ça. Et puis, 3 semaines après, je reçois un colis gigantesque, super bien emballé et tout ça. On sentait qu'il y avait du lourd derrière. Et je déballe et waouh. Donc ça a été aussi... Mais principalement, ce sont des anecdotes. C'est pour ça que j'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais que les collectionneurs ont une idée peut-être plus précise de ce qui va se passer. Moi, c'est aussi parfois des réponses aux questions que l'on se pose dans le travail. Et la réponse peut être développée par un autre artiste. Et donc... Ça m'intéresse et j'ai envie d'aller voir un peu plus et de vivre avec ça et d'essayer de comprendre comment lui a développé la question. Donc voilà, la question de la ruine, évidemment, je dessine beaucoup de ruines, mais chez Jean-Pierre, c'était très important. Donc voilà un peu le type de...
Donc c'est l'occasion, quand tu acquiers des pierres, de discuter, même si ce n'était pas forcément physique, avec cet artiste. C'est vraiment une sorte de dialogue avec un artiste en particulier. Est-ce que c'est la même chose dans ta collection, Laurent ?
Pas nécessairement, mais nécessairement ce qu'on achète est lié à ses propres obsessions qui se retrouvent dans son travail artistique. Donc il y a une forme de circulation qui se met en place. Il y a des œuvres qu'on achète parce que ça répond effectivement très clairement à une problématique qu'on se pose, ou en tout cas des questions qu'on développe dans un travail, et que effectivement on est interloqué par la proposition que fait un autre artiste, et on a envie effectivement de la mettre en dialogue avec son propre travail, de l'avoir avec soi. Donc nécessairement, oui, ça nourrit, en tout cas il y a quelque chose qui circule, et une dimension un peu curatoriale qui se met en place, je pense, entre sa pratique, sa propre pratique, et ce qu'on souhaite faire répondre à sa pratique. Je pense que ça tient un peu de ça. On a envie, effectivement, d'engager des dialogues. En tout cas, je parle pour moi. J'aime bien, effectivement, que les œuvres de ma collection résonnent par rapport à ce que je fais moi. Et ça le fait de façon tout naturelle, ne serait-ce que par ce qui nous habite en tant qu'artiste. Je pense que, de la même manière, ce qui nous habite en tant qu'artiste se retrouve, qu'on le veuille ou non, dans la collection.
Oui. Oui, j'en profite pour soulever un petit côté pervers aussi. Je veux dire que la collection, c'est un rêve, et puis c'est comme tout, c'est un peu n'importe quoi, comme tout, comme les artistes, comme tout. Et non, je pense à Picasso et Matisse, par exemple, qui étaient les monstres sacrés que nous connaissons, que nous admirons, et qui avaient des œuvres, qui possédaient des œuvres des autres, c'est-à-dire Picasso avait des œuvres de Matisse et Matisse avait des œuvres de Picasso. Alors c'était des échanges qui se faisaient, parce que les artistes n'achètent pas chez un autre artiste. Soit on arrive à se faire un échange parce que c'est sympathique, mais je veux dire, je connais pas de... Je veux dire que c'est comme ça que ça se passe, et c'est évidemment très, très sympathique. Et j'ai entendu une anecdote, enfin, qui m'a été confirmée. Alors, bon, d'abord, les artistes, ce que je peux leur rendre quand même, c'est que quand même, ils marchent à l'intuition, et souvent, il y a un feeling qui fonctionne, et ils ont été, dans pas mal de cas... Je dirais pas les découvreurs, mais je sais qu'Anne Veller, par exemple, posait beaucoup à ses artistes des questions sur les autres artistes pour savoir comment ils réagissaient. Donc ça veut dire que quand même, l'état de fraîcheur d'un artiste, ça peut servir aussi à une liberté comme ça. Et donc il y a eu un échange entre Picasso et Matisse, et un jour, Picasso a dit à Matisse... Prends ce que tu veux, enfin, je ne sais pas, il était dans une situation comme ça. Et donc Matisse a pris une œuvre de Picasso, voilà, je pense qu'il était content, enfin, je l'espère pour lui. Et puis ensuite, un jour, c'est le contraire qui s'est passé. Et donc Picasso s'est retrouvé chez Matisse, et Matisse lui a dit, bah, écoute, on a fait un échange, maintenant choisis. Et d'après mes informations... Picasso a pris une œuvre qui n'était pas une grande œuvre de Matisse pour quand même la mettre chez lui en disant, ça voulait dire Matisse, c'est ça aussi. Donc rivalité quand même aussi, vous voyez. À un très haut niveau, mais quand même un petit peu, c'est moi le chef, Matisse, c'est le numéro 2, voilà, c'est ça. Donc choisir une œuvre moyenne quand on est un grand artiste, c'est quand même, il y a un peu de perversion. Là, ça peut arriver, mais ce n'est pas non plus que ça. Hein. Mais je voulais le signaler parce que ça peut être un point de rivalité, ça peut être des concurrences et tout ça. Et puis, il y a des artistes, ça on le sait tous, qui sont des personnes qui sont dans une obsession artistique, et on aime les obsessions artistiques. Il y a ceux qui sont tenants de Mondrian, de l'art cinétique, des nouveaux réalistes, du pop art et tout ça, et qui évacue complètement ce qui ne ressemble pas du tout à cette chose. Donc c'est une sorte des templiers, en quelque sorte, comme ça, de l'art. Et alors, pour eux, c'est vraiment la direction comme ça. Si on est un tout petit peu sur le côté, on ne sera jamais là. Et moi, évidemment, je déteste cette idée que voilà, c'est ça ou c'est pas ça, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un Douanier Rousseau devant les yeux, un Gauguin, un Malevitch à côté même, et puis... Et puis un jeune artiste à côté, c'est de sentir cette vibration comme ça. Non, je voulais dire que les artistes, bon, c'est plus complexe. Je ne crois pas que les artistes collectionnent fondamentalement. Ils ont, comme je disais, ils sont occupés, ils ont un boulot à faire, je pense. Et puis, c'est un peu gênant aussi, soit on vit avec ses œuvres, on est engagé, ou bien on a des œuvres qui représentent votre pouvoir. Et les deux parfois se confondent. Mais moi, j'aime bien chez Picasso que quand on allait chez Picasso, enfin, je n'y suis pas allé, mais quand on allait chez Picasso, il n'y avait que des Picasso. Voilà, c'est ça. Alors, pour les initiés, il y avait bien le Douanier Rousseau, et puis il y avait Matisse et d'autres. Et voilà. Mais c'est. L'artiste, il fait la terre brûler, en quelque sorte. Il faut qu'il soit, seul dans cette histoire. Quand il collectionne, c'est déjà, pour moi, c'est déjà une sorte d'ambiguïté. Enfin, voilà, il veut jouer sur les deux trucs, c'est un petit peu difficile. Mais ce n'est pas une attaque que je fais. c'est simplement comme tu le disais, on a besoin de respirer aussi. On est toujours étouffé, on est toujours serré dans un étau, et à un moment, on a envie de rencontrer l'autre. On a envie de rencontrer l'œuvre de l'autre, parce que c'est mystérieux, et puis ça nous donne de la force aussi, mais faut-il que ce soit des œuvres qu'on admire. Oui, évidemment, sûr. On ne collectionne pas les œuvres qu'on n'admire pas, en principe.
Alors justement, pour revenir à la question de l'échange, donc Emmanuel, tu nous as dit que toi, tu avais pratiqué des échanges avec d'autres artistes. Est-ce que ce sont des artistes, c'est d'un commun accord que vous avez décidé de faire un échange? Est-ce que ça s'est passé comme Matisse ou Picasso, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis la pièce que tu vas donner, ou est-ce que tu demandes à l'artiste de choisir dans sa propre, dans ta propre production? Bon, dans le cas de Jeanne, tu nous as expliqué que c'était elle qui t'avait fait un biberon parce qu'il y avait une relation particulière avec la naissance d'un enfant. Comment ça se passe?
C'est différent pour chaque artiste, parce que parfois, oui, on se met d'accord comme ça sur une discussion, et puis l'un présente plusieurs œuvres et choisit, et inversement. Parfois, c'est un jeu comme avec Jean Dupuis, qui avait envie d'une de mes peintures, mais qui m'a dit, parce que c'était très grand format, et qui me disait, je voudrais bien une nébuleuse comme ça, mais la plus petite que tu puisses faire, la plus petite, parce que c'était que des grands formats. Donc c'était comme ça un jeu, et j'ai réussi à en faire une toute petite, et puis il me l'a échangé contre une ligne d'horizon, avec une pierre dessus qui reprend, enfin comme son travail souvent, quand il reprend une pierre comme ça, avec une ligne déjà présente, et puis il la prolonge. Donc voilà, c'était sur une discussion, et... donc il n'y a pas de mode, c'est jamais le même mode, parce qu'encore une fois, c'est pas une logique de collectionneur, c'est une logique de rencontre. Où, oui, et puis sauf parfois, alors j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais parfois c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on trouve chez l'autre qui se pose les mêmes questions, qui est sur le même terrain. Une réponse qui ne va pas être forcément la nôtre, mais en tout cas une réponse qui peut être intéressante et qui permet d'y réfléchir. Et c'est comme un bouquin, quoi. Donc c'est différent, ouais, c'est différent. Parfois, ça peut être un artiste qui vient à l'atelier qui me dit « Ah, j'adore, bah, prends-la » et l'échange se fait après. Et inversement, des fois, je peux cacher sur une pièce...
Oui, ça peut s'étaler dans le temps, oui. Ça peut prendre le temps de la réflexion aussi.
Par exemple, avec Michel Blasi, ça a mis 2 ou 3 ans, je crois, parce qu'il a raté plusieurs fois, ça a recommencé, comme c'était un vase, avec, je ne sais plus si tu l'avais mis, avec de l'encre dedans qui vient imbiber le plâtre. La première avait raté... avec Claude Parent aussi, ouais. Il n'était pas, c'est pas grave. Claude Parent, oui, c'était sur la question du dessin. Ouais.
Et donc, même si les valeurs financières ou économiques des œuvres sont complètement différentes, ça n'entre pas dans la réflexion au moment de l'échange?
Heureusement pour moi, non, parce que si Longo avait dû.
Avant, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Peut-être qu'aujourd'hui, ça rentre un peu plus.
tu le sens, toi, dans les échanges?
Oui. Moi, je me souviens un jour chez Niki Tsinfal, on vivait ensemble tous, là, on était dans une sorte de phalanstère, et il y avait un tir merveilleux, et il était sous une gouttière, et la flotte tombait dessus. C'était vraiment un truc qui pourrissait, vraiment. Et c'était une pièce de 61, une pièce historique, un magnifique tir. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux une œuvre de moi? Parce que moi, je veux sauver cette chose, elle va être pourrie et tout ça. Et Niki m'a dit, bah écoute, si ça te fait plaisir, prends-la. Voilà. Et donc, on a fait un échange comme ça. Mais c'était plutôt une situation d'urgence, comme ça. C'était pas... mais à ce moment-là, on était dans les années 70, il n'y avait pas de marché de l'art encore. Il y avait des marchands, mais il n'y avait pas de marché de l'art. Et la pression qu'il y a aujourd'hui. Donc, on n'avait pas l'impression d'acheter quelque chose qui avait une valeur marchande. On était dans une relation passionnelle. Évidemment, c'était très agréable, ça. C'était, mais ça, c'est un monde que vous n'avez sans doute pas connu, la plupart. Mais voilà. Non, je crois qu'on a perdu quelque chose qui était la gratuité de ce rapport aux objets d'art quand ils n'étaient pas devenus des objets voilà, qui rentraient dans le commerce de l'art. Tout le monde le sait, mais enfin, moi, j'arrête pas de le dire, et puis c'est comme ça, et puis le progrès, il faut que ça continue, et tout ça. Mais mon rêve absolu, ça serait que les œuvres d'art ne soient pas à vendre. Ça serait ça. Ça serait le rêve absolu, puisqu'on a une... on peut dire c'est facile parce que toi tu as réussi ta vie, donc tu peux dire tu es zen, tu as pris du recul, mais c'est pas donné à tout le monde d'être zen sur cette question là ah oui. Moi je crois que ce que j'aime dans les œuvres d'art, c'est le geste de l'artiste quand il crée son geste, c'est à dire que c'est un moment, c'est comme une naissance, c'est le moment pur, c'est le moment où il n'y a pas de public. C'est le moment où l'artiste est seul avec ce qu'il a fait. Et je pense que c'est le propre des grands créateurs, le plus souvent, bien sûr, quand ils sont jeunes, quand ils n'ont pas été encore abîmés par le marché, souvent, c'est-à-dire d'avoir un moment d'innocence et de ne pas donner de valeur à leur œuvre. Et là, il y a des pépites, évidemment, ça c'est sublime. Mais malheureusement, ça se gâte après parce que, le marché, bon, on vous dit il faut bien que l'artiste vive, si tu es célèbre tu pourras faire plus de choses, enfin bon bref, il y a plein de choses qu'on connaît, et donc ce beau moment comme ça de la naissance devrait être la finalité d'un tableau de Van Gogh, de tout ça. Il faudrait pas que c'est un rapport avec la monnaie, avec la monétisation des choses. Mais c'est évidemment une utopie, je le sais bien, mais c'est quand même bien, moi ça me fait du bien de le dire quand même.
C'est vrai. Mais, non, ça me fait penser que, alors je ne sais pas, mais souvent les galeristes, par contre par rapport à l'échange, c'est pas, ils ne sont pas toujours à fond. Quoi.
Et Laurent, est-ce que toi, tu as pratiqué des échanges aussi ?
Non, je ne pratique pas des échanges, mais des dons. Il y a des dons, quoi, à un certain moment. Donc on donne des choses, on reçoit des choses. Moi, je n'aime pas trop je n'ai pas une pratique de l'échange parce que j'ai les moyens économiques d'acheter. Donc, je n'aime pas, en fait, ce principe. Comme j'ai la possibilité d'acheter, que j'ai quand même conscience que dans les situations, le plus souvent, des artistes, c'est quand même pas très facile. Si effectivement je peux passer par le système, acheter une œuvre, pour moi c'est aussi une forme d'engagement, c'est un engagement modeste, mais c'est le petit soutien que j'apporte, c'est effectivement en aidant économiquement l'artiste, et voilà. Donc, bon, mais c'est parce que j'ai les moyens de le faire, et si effectivement on me donne des choses, je suis très 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 reconnaissant, et il m'arrive de donner des choses aussi de la même manière. Mais pas dans une forme d'échange qui fait que, voilà, c'est pas comme ça, en tout cas, que ça se passe à ce niveau. Je dis pas que ça ne pourrait pas se passer, mais ça, c'est pas comme ça, en tout cas, que ma collection se constitue. Et je pense qu'on a pointé quelque chose de très important, c'est que pour l'artiste, c'est pas la collection qui prime. Hein, voilà, on fait pas œuvre de sa collection. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la construction de la collection dans une forme d'idéalité, de logique, d'éléments systémiques pour l'artiste, en tout cas, voilà, on parlait d'ambiguïté aussi des différents statuts. Je pense qu'on peut avoir différents statuts, c'est une question après d'éthique dans la manière dont on gère les choses. Je pense que c'est important d'avoir cette forme d'éthique, et c'est pour ça que je passe plutôt par le système de l'achat, et parce que c'est aussi faire travailler les galeries aussi. Je pense que les galeries est un maillon important. Là, je me perds complètement dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis plus du tout le fil de ce que je suis en train de dire et ce que je voulais dire. Je pense qu'on est vraiment... ce qui fait sens pour l'artiste, c'est vraiment de construire son œuvre. Et c'est là. Et puis la collection, c'est un à côté. On ne fait pas œuvre de sa collection. On fait œuvre d'abord de soi, de sa recherche, de sa démarche artistique. Et la collection, c'est quelque chose qui se déploie à côté, mais comme pourrait se déployer autre chose de très différent, si ce n'est qu'il y a effectivement des éléments qui se mettent en réseau nécessairement entre ces pratiques.
Et justement, je suis d'accord avec toi sur l'idée que C'est aussi un outil, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est un outil pour m'aider à construire mon travail.
Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que, oui, c'est un outil, mais ça n'implique pas un acte d'acquisition, d'appropriation. C'est-à-dire, pour moi, le côté pathologique, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est que je me pose vraiment la question de la nécessité de m'approprier les choses. Voilà. Il y a quelque chose, effectivement, d'une accumulation, d'une compulsion d'achat, parce que c'est un petit peu comme ça que chez moi, ça se déploie. Je peux très bien me nourrir du travail des autres en étant en galerie, en allant dans les musées. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément dans l'art contemporain que je me nourris. Je me nourris aussi parallèlement sur l'art beaucoup plus classique. Je passe beaucoup de temps au Louvre, par exemple. Je n'ai pas l'impression de me nourrir plus, effectivement, par l'art de mes contemporains que ce que je vois, effectivement, dans des musées de collections beaucoup plus classiques. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qu'on a chez soi pour un plaisir, effectivement, solitaire, qui pourrait se déployer autrement par rapport aux pratiques des autres. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir connaissance de ces pratiques et de ces réponses hein, qu'une démarche artistique d'un autre pourrait apporter par rapport à son propre travail, mais elle n'explique pas forcément le fait qu'on a cette nécessité, on a ce besoin, effectivement, de l'avoir à soi, de l'avoir chez soi et pour soi seul. C'est quand même un plaisir le plus souvent solitaire, même si on déploie beaucoup d'énergie, comme le font des collectionneurs dont on a parlé tout à l'heure, pour présenter la collection, déployer la collection. Mais il y a quand même ce réflexe d'appropriation qui est là dans l'acte de collection. Au-delà de toutes les intentions louables, hein, ça n'est pas le seul ressort. Hein, je ne suis pas en train de résumer l'acte de collection à une pathologie, qu'on m'entende bien. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres ressorts qui sont...
J'ai trouvé une solution transversale, mais tout le monde ne sera pas d'accord. C'est de revenir à 30 000 ans en arrière, 30-50 000 ans, quand l'expression était murale. Dans les grottes, vous voyez, alors on appelle ça un artiste, on n'appelle évidemment pas un artiste contemporain, on peut appeler ça un artiste ou quelqu'un qui s'exprime, en tous les cas qui communique, pas très loin de l'artiste, il faut bien le dire. Et donc, quand ces personnes en question, ces hommes, ces femmes, imprimaient leurs mains ou montraient des animaux ou des choses comme ça, là, ils étaient certains que ça n'irait pas dans le marché de l'art, ça ne se retrouverait pas en vente publique. Parce que c'était quand même, on était sur la masse et c'était déjà de la communication, mais ce n'était pas encore du business. Et donc, eux ont échappé au business de l'art. Tandis que nous, évidemment, maintenant, comme on a la tête dedans...
On n'en sait rien, hein. Peut-être qu'il y avait du business. Hein.
C'est ce que j'allais dire, peut-être qu'il y avait un échange entre... je te donne un bout de gigot et toi, tu fais... tu dessines le gigot avant.
Peut-être, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'intermédiaire, en tous les cas. voilà. Il y avait peut-être une hiérarchie, mais il n'y avait pas d'intermédiaire. Et donc, quelqu'un s'exprimait, et aujourd'hui, on peut trouver ces choses qui nous paraissent pures. Sont-elles pures? Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, elles ne sont pas avec un pédigré comme ça, qui fait qu'elles valent tant, ou elles sont chez X ou Y, et tout ça. Ah, oui. Je veux dire, mais c'est pas une... J'attaque pas les collectionneurs. Hein, pas du tout. C'est simplement de me dire, peut-être il faut aller très loin en arrière pour se retrouver avec... avec peut-être une fraîcheur ou on peut rêver, quoi, voilà, c'est ça. Le monde étant ce qu'il est, moi je trouve que le rêve, c'est peut-être encore la seule solution.
Et alors, Laurent, toi, quand tu rentres dans une galerie et que tu n'as pas forcément au départ l'intention d'acheter des œuvres, puis finalement tu pars peut-être avec certaines œuvres, comment ça se passe justement les intermédiaires? Comment te regardent-ils? Est-ce qu'ils te voient comme collectionneur? Est-ce qu'ils te voient comme artiste? Y a-t-il une confusion qui se fait?
Alors les galeries me voient avant tout comme un collectionneur. C'est très vexant, mais c'est comme ça que ça se passe. Leur intérêt, c'est que je sois collectionneur. Leur intérêt, c'est que je sois commissaire. Et leur intérêt, c'est que je sois directeur d'un fonds de dotation. Donc, il y a des gens qui le savent. Effectivement, quand je suis identifié comme collectionneur et identifié comme directeur d'un fonds de dotation qui promeut l'art contemporain, c'est sûr que c'est cette dimension qui va être valorisée. J'ai beaucoup de retours, notamment que ça a des influences aussi sur ma carrière, c'est-à-dire qu'il y a des galeries, je sais par recoupement, j'entends effectivement que certaines galeries ont renoncé à me représenter parce que j'étais collectionneur. Donc ça a aussi des distances dans ma carrière, parce que, et je m'en fiche, hein, j'en ai, bon, je ne me plains pas de ça, que ce soit aussi entendu, c'est que l'intérêt de la galerie, c'est de vendre, et donc l'intérêt, c'est de faire vendre, et donc c'est le collectionneur qui va être pris en compte. Donc c'est toujours compliqué de savoir effectivement comment on est apprécié, regardé, perçu, mais ce que je comprends de manière très logique, c'est que l'intérêt de la galerie, c'est d'abord de me considérer comme collectionneur et me valoriser en tant que collectionneur. Donc ça, c'est très simple, un dîner de galerie, vous voyez avec qui, à côté de qui vous êtes placé, vous comprenez que c'est le collectionneur qui intéresse les voisins et les personnes à côté desquelles vous êtes placé quand il y a un dîner placé. Voilà, on sait que vous êtes placé à côté de ces personnes-là, non pas parce que vous êtes un artiste, mais parce que vous êtes collectionneur, et c'est important de comprendre à quel niveau vous êtes invité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus... vous êtes très conscient de savoir que dans un cadre, c'est cette casquette-là qui joue. C'est là, c'est des questions d'éthique hein, qui sont mises en avant. Moi, je défends un fonds de dotation. Ce fonds de dotation est lié à une entreprise. Mon devoir, ma responsabilité, en tant que directeur de la collection de cette entreprise, c'est de pas effectivement de jouer sur différentes casquettes pour pousser ma carrière artistique. Alors que je suis invité comme directeur de fonds de dotation parce que c'est porté préjudice effectivement à ma fonction et donc de tout ce que représente effectivement la responsabilité qu'on m'accorde en tant que directeur de fonds de dotation. Donc on est très conscient en fait, lorsqu'on est invité, on sait pourquoi on est invité, on n'est pas naïf. Parfois c'est le directeur du fonds qui est invité, parfois c'est le collectionneur. Et il s'agit de jouer, effectivement, il y a un jeu social, malheureusement, et il s'agit, on sait dans quel contexte on doit naviguer et quelle casquette on doit mettre en avant plus logiquement dans un contexte particulier. Mais ce n'est pas compliqué à comprendre. Voilà. C'est juste jouer un rôle avec les responsabilités qui sont liées à ce rôle-là, parce que malheureusement, dans certaines des casquettes, il y a des formes de responsabilités. Voilà, quand on est artiste, on ne se pose pas trop la question, mais quand on représente un fonds et une entreprise, on a quand même le devoir de le faire convenablement et de jouer le rôle qui vous est imparti dans ce contexte-là. Je pense pas que je sais effectivement ça intéresse les galeries que je sois collectionneur, que le regard de l'artiste les intéresse. Après, je ne pense pas qu'on va me vendre une pièce, on va me réserver une pièce en priorité parce que je suis collectionneur. On va plutôt me réserver une pièce en priorité parce qu'on apprécie ma collection ou qu'on voit ma collection d'un bon œil. Voilà, parce que vous êtes quand même conscient que dans les galeries, on réserve des pièces aux bons collectionneurs. L'idée, c'est aussi de tenter de placer les bonnes pièces dans les bonnes collections. Donc, nécessairement, en tant que collectionneur, on rentre dans cette logique-là. Il y a effectivement quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Mais ce n'est pas lié au fait que je sois un artiste. C'est par rapport à la perception qui est faite, objective ou erronée, de ce que serait ma collection, de ce qu'est ma collection.
Donc, Jean-Pierre, est-ce que toi, ça t'est arrivé d'avoir des gens qui t'ont sollicité parce qu'ils avaient des œuvres de Gérard Deschamps, sachant que toi, tu les collectionnais ou que tu les conservais ?
Oui, bien sûr. Oui. Bah, les marchands, évidemment. Voilà. Et pour le moment, j'ai tenu parce que je trouve que si c'était un pur esprit qui me disait « Moi, je suis aussi amoureux que toi de cet ensemble », peut-être je me laisserais aller, mais là je me dis ça va être dilapidé. C'est-à-dire j'ai passé ma vie à me passionner chaque fois pour une œuvre, et puis après tout va disparaître comme ça. Non, je ne suis pas là pour casser l'ambiance. Quoique je les casse peut-être un peu.
T'inquiète pas, ils sont malades déjà.
Mais l'artiste n'est pas toujours gagnant de vendre ses œuvres. C'est... J'ai par exemple une œuvre pour moi qui est importante, je parle de moi, qui est grande et que j'ai refusé de vendre au musée de Melbourne, le grand mur de sens interdit de 70, et même Beaubourg est venu vers moi aussi, et je dois dire que j'ai trouvé plus fort, mais au sens profond du terme, de vivre avec cette œuvre devant moi tout le temps. Je l'ai quand je me réveille le matin, je l'ai le soir, elle fait 10 mètres de long quand même, et 3 mètres de hauteur, et je me dis, quand du reste le musée de Melbourne, il y a une trentaine d'années, voulait l'acheter, évidemment j'étais flatté comme tous les artistes, mais je me disais, mais Melbourne c'est au bout du monde, je ne la reverrai plus jamais. Donc j'étais frustré aussi quelque part, et je n'ai pas regretté ensuite de me dire, maintenant je sais que jusqu'au dernier jour de ma vie, je vais vivre devant. Après, mon fils, il fera ce qu'il voudra, mais en tous les cas, je veux dire que j'ai retourné le problème. Vendre, c'est intéressant si la personne est amoureuse, je veux dire, si la personne est passionnée. Tous les acheteurs, tous les collectionneurs vous diront qu'ils adorent, évidemment. S'ils achètent, c'est parce qu'ils adorent, pour des raisons diverses. Ça peut être pour l'art ou ça peut être pour autre chose. Mais moi, je trouve que, encore une fois, l'œuvre, enfin, sur les choses qu'on aime, c'est un trésor. Et un trésor, c'est pas à vendre. Alors, je sais, c'est à vendre, ça peut permettre de vivre, ça peut. Mais il y a des choses, il y a des œuvres, il vaut mieux se nourrir de ces œuvres devant soi, plutôt que de les vendre à quelqu'un qui va peut-être les revendre ou qui va s'en lasser et tout ça. Parce que la plupart des œuvres qu'on vend, on ne connaît pas les personnes qui les achètent. Donc c'est un peu quand même une bouteille à la main. C'est envoyer quand même des œuvres vers des personnes qui les aiment peut-être, ou qui les aimeront peut-être pendant 6 mois, et qui ensuite, moi j'ai vu des œuvres de moi repasser en vente publique 6 mois plus tard, et des œuvres quand même que je trouvais de grande qualité. Et c'était blessant, c'était vraiment, je me disais, mais alors pourquoi acheter pour 6 mois? C'est comme si on veut avoir une liaison avec quelqu'un dans 6 mois, en se disant, dans 6 mois je recommencerai avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, je trouve que c'est plus joli d'avoir une relation un peu d'éternité avec les œuvres. Mais on ne peut pas tout garder, je suis d'accord. Mais tout ça pour dire qu'il y a des effets pervers de vendre des œuvres aux autres, sauf si on a une confiance absolue en personne et si elle a un visage. Parce que je vous dis, la plupart du temps, on ne connaît pas le visage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses qu'on a aimées partent chez des personnes dont improbables, qui peut-être ne les aiment même pas, mais les ont là en se disant, ben, quand ça sera à la hausse, je les revendrai, ou peut-être les aiment, et ça, on ne le sait pas non plus. Donc, il faut aussi le dire. Mais, je veux dire, c'est assez improbable. Quand on a décidé de vivre avec quelque chose et qu'on se dit, non, elle n'a pas de prix, je la garde, et puis qu'on serre les dents parce qu'on a besoin peut-être d'un petit peu d'argent, et qu'on se dit, non, je vais vivre avec toi pour toujours, et là, évidemment, je crois qu'on vit quelque chose de fort. Alors, on ne peut pas le faire avec toutes les œuvres, mais je pense que c'est une bonne leçon qu'on se donne quand on le fait. Moi, en tous les cas, c'est une pratique que j'adore. Il ne faut pas faire de la rétention, mais c'est bon de vivre aussi avec quelque chose, que ce soit de soi ou de quelqu'un d'autre, du reste. C'est de se dire, c'est vraiment une vraie relation, ça. Ce n'est pas un truc comme ça qu'on fait et puis demain, on fera autre chose. Voilà. Moi, j'aimerais que le côté passionnel, que ce soit un engagement définitif, là. Je sais bien que ça ne l'est pas, mais c'est un peu ça. Donc, voilà, je crois que je n'irai pas plus loin.
Les scènes t'a pas empêché, Jean-Pierre, un jour, de mettre beaucoup d'œuvres en vente aux enchères?
Oui, j'ai fait il y a 10 ans, non, il y a 13 ans, une vente chez Christie's. D'une centaine d'œuvres qui étaient les œuvres que j'avais gardées pour moi, qui étaient des œuvres, pardon de le dire, mais qui étaient des œuvres historiques. Et je me suis dit, je vais savoir qui sont les vrais collectionneurs. Je les ai mis en vente chez Christie sans prix de réserve. C'est-à-dire qu'on pouvait, pour 1 euro, acheter vraiment des œuvres majeures qui avaient 50, 55 ans. Et qui sont les gens qui ont acheté ça? C'est Pinault, c'est les gens qui avaient un petit peu, mais aussi des personnes que je connais qui avaient peu d'argent aussi et qui ont eu là la possibilité aussi d'acheter des œuvres. Et les marchands me faisaient évidemment la gueule parce que c'était terrible. Moi, je me souviens de Templon, je me souviens de tous ces gens qui disaient, non mais tu es en train de casser la baraque, ça se fait pas, tu nous casses notre boulot. Et j'ai dit, écoutez, moi, les œuvres, pour moi, elles sont vivantes et tout ça. Donc, ça se fait qu'une fois. Hein. Ah ben. Mais c'est quand même, je ne regrette pas d'avoir fait cette chose. Et puis voilà, mais on, c'est un geste qu'on fait une fois.
C'est comme ta maison, non? Quand tu casses ta maison, c'est le même geste. C'est un peu le même, parce que c'était un coup, enfin, je veux dire, tu aurais pu...
C'est qui te double, ouais. En fait, pour toi, tu gagnes ou tu perds tout.
Bah oui, c'est ça.
Mais j'aime cette idée-là.
C'est coup de poker.
Oui, mais c'est avec toi, c'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est un challenge. Tu sais qui tu es, tu vois. Si tu le fais pour, évidemment, des problèmes de communication, ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais si tu le fais comme une relation extrême et passionnelle avec quelque chose, avec de la matière inerte, en l'occurrence, puisque ce n'est pas de la matière vivante, eh bien, ça a la même valeur pour moi que si c'était... je trouve qu'on ne vit pas aussi assez audacieusement, je trouve. On ne va pas assez loin, je veux dire, d'une façon générale. Et les artistes, c'est un peu leur pratique d'en faire parfois trop, même. Mais c'est normal, parce qu'eux, ils vivent un peu comme ça. C'est un peu parfois n'importe quoi. Mais au moins, en règle générale, ils sont censés être libres et d'être responsables aussi. Pour moi, ça, c'est très important. Mais je ne peux pas dire les artistes, parce qu'on ne peut pas dire les artistes comme on dit les personnes. Il y a des personnes qui sont comme ça, et il faut que les personnes puissent vivre. Moi, je trouve que c'est une leçon que nous donne l'art, c'est-à-dire que c'est pour dépasser nos limites, savoir qui on est. Je trouve que ça, c'est intéressant. Donc, il n'y a plus... moi, c'est l'aventure humaine qui me paraît importante et pas l'aventure artistique. L'aventure artistique, c'est la conséquence de l'aventure humaine. Donc, les œuvres, je suis fasciné par les œuvres, mais en même temps, non, je me dis comment une personne a pu s'engager à ce point-là sur quelque chose d'aussi dérisoire ou d'aussi problématique, d'aussi aléatoire ou d'aussi étonnant. Et j'aime ce côté héroïque quand même de l'artiste qui prend des risques véritablement. Et les œuvres, on voit bien, ça devient une monnaie d'échange, ça devient des trophées, ça devient autre chose. C'est le propre de la matière inerte de devenir ça. Ça se termine dans un musée dans le meilleur des cas, ou ça se termine à la poubelle dans le pire des cas. Et c'est la même chose.
Ou inversement.
Comment ?
Ou inversement.
Oui.
Dans une cave aussi.
Oui, dans une cave.
y a-t-il des questions aussi que vous aimeriez poser ? Oui ?
Ce que vous avez entre vous, c'est qu'on voit bien que dès qu'on s'intéresse à ces questions d'art contemporain ou d'art en règle générale, on est vite confronté à la confrontation de différents systèmes de valeurs, de systèmes d'équivalence, dont on ne peut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Le marché, c'est un système d'équivalence parmi d'autres, mais l'échange entre un artiste inconnu et un artiste célèbre dont la valeur marchande est très différente, mais c'est aussi un système d'équivalence qui est tout à fait légitime. Et je trouve ça bien de montrer que finalement, autour de l'art, il peut y avoir plein de systèmes de valeurs qui ne reposent pas sur les mêmes choses. Et ça, c'est quand même une sacrée bouée d'oxygène de se dire... Bah, parce qu'au bout du compte, à partir du moment où la valeur sur le marché est déconnectée du coût de production, eh bien, effectivement, les échanges entre une œuvre qui vaut très cher et une œuvre qui vaut pas cher est possible. Si le prix était ancré principalement sur les coûts de production, ce ne serait pas possible, parce que ça serait difficile d'échanger une œuvre qui a coûté 1 million d'euros à produire avec une œuvre qui a coûté 1 000 euros à produire. Mais comme finalement ce lien-là, il est assez faible, il existe, mais il est assez faible, finalement, on est libre. C'est-à-dire que si on est artiste, on est libre.
Il faut être inventif.
Voilà.
Il faut vraiment être inventif. Je crois que la méthode de l'artiste, c'est la méthode qui nous intéresse de l'artiste. C'est que dans le fond, il vend peut-être du vent, mais il risque quelque chose. En tous les cas, il rêve quelque chose. Ça peut être de l'utopie, ça peut être du talent qui s'exprime et tout ça. il nous montre une méthode que dans la vie réelle, on ne fonctionne pas. Et les collectionneurs, c'est pareil. Moi, je dis aux collectionneurs, inventez aussi votre collection. Du reste, les trois personnes qui étaient là étaient des personnes qui avaient inventé leur collection, qui avaient chacune une particularité comme ça. Et ça, c'est plutôt bien, je veux dire. C'est-à-dire, faites rentrer dans votre vie cette chose comme une sorte d'énergie de choses qui l'artiste, finalement, vous montre la méthode. Maintenant, à vous d'en faire quelque chose, à vous d'en inventer aussi. Donc ça, j'aime bien ça avec les œuvres d'art. La notion de chef-d'œuvre, ça, c'est l'histoire de l'art. Je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre. On peut dire pour le moment, c'est ça qui est adulé. Demain, ce sera peut-être son contraire et tout ça. Mais l'énergie dégagée par l'œuvre d'art, moi, je trouve que ça, c'est complètement magique. Et du reste, qu'on la possède ou qu'on ne la possède pas. C'est-à-dire, la victoire de Samothrace, on ne la possède pas. Et elle prendrait de la place dans le salon. Et on n'a pas besoin de la voir pour la vivre. Je veux dire, on peut vivre avec des œuvres qu'on ne possède pas. Il faut le savoir aussi. Il ne faut pas être frustré. Quand on est dans un paysage extraordinaire, devant un coucher de soleil incroyable et tout ça, à part cette manie de faire une photo, c'est de vivre la chose qui est important. Mais la manie, c'est de prendre la photo. Voilà. On veut toujours matérialiser la chose. Et vivre, ça devient difficile de vivre quelque chose. C'est ça que je trouve intéressant avec les œuvres d'art, c'est que dans le fond, c'est une aventure, c'est une prospective, c'est tout et rien. Étonnamment, ça crée des perspectives à des personnes, ça change la vie de certaines personnes et tout ça. Puis à côté, il y a le marché de l'art. Prendre quelqu'un qui sait en parler du marché de l'art. Moi, je ne sais pas parler du marché de l'art, mais je veux dire que c'est la belle aventure, c'est l'aventure humaine dans tout ça. C'est l'aventure qu'on vit, c'est pour ça qu'on peut s'apprécier, parce que moi, c'est l'être humain que j'apprécie. Et les œuvres, on fait ce qu'on peut. Alors, il y a des œuvres qui nous font rêver, il y en a d'autres qui nous font moins rêver. Je trouve que ce n'est pas grave, c'est comme le sport de haut niveau. Il y en a qui sautent là et puis d'autres qui sautent là. On sait qui on est. Je veux dire, quand on saute là et quand on saute là, c'est pas qu'on est moins bien quand on saute plus bas, mais on n'est pas ceux qui sautent là. Et ben, je crois que l'artiste, c'est cette épopée héroïque comme ça, un petit peu, que je trouve agréable. Après, qu'il soit très célèbre, moins célèbre, et le reste, après, c'est de la vanité, c'est autre chose. Moi, j'étais moins...
Je peux me faire détester par tout le monde et revenir au marché. Je vais revenir au marché, je vais me faire détester par tout le monde. Parce que je suis complètement d'accord avec vous lorsque vous dites effectivement on n'a pas besoin de s'approprier l'œuvre d'art et on peut très bien vivre en visitant des expositions. Oui, il y a un mais. C'est-à-dire que c'est comme ça que je vis en plus. C'est-à-dire que je ne suis pas collectionneuse, je visite les expositions, je me régale. Mais quelque part, si tout le monde passait sa vie à aller dans les expositions, en visitant des expositions, en se nourrissant des œuvres dans l'esprit, en n'achetant jamais une œuvre, on n'aurait plus de diversité. Je ne suis pas collectionneur, ouais. Mais on a besoin du marché aussi pour faire vivre les artistes, pour promouvoir cette diversité, il me semble. Le marché n'est pas que je sale.
Sais, mais même si je ne le pense pas, je le dis quand même. Ouais. Parce que je crois que c'est important de le dire. Mais en sachant que la réalité, oui, bien sûr, c'est la réalité. Mais
Un remerciement à M. Reynaud pour ce qu'il a dit, parce que je pense que l'œuvre, c'est un don. Et donc, moi, je pense que c'est important de redire que les artistes n'ont pas l'obligation de vendre à n'importe qui, n'importe comment. Voilà. Pour moi, en tant que collectionneur, je peux comprendre que quelque part, une œuvre, elle n'a pas à aller n'importe où, n'importe comment, et chez n'importe qui. Voilà. Et surtout pas chez des collectionneurs victimes. pour faire le lien avec nos amis tout à l'heure. Hein. Ça, c'est, mais vraiment, pour moi, c'est très important que cette idée-là de ce groupe-là sur l'échange retienne cette idée que l'œuvre est un don et qu'elle ne se donne pas comme ça. Voilà.
Non. Oui, mais
on peut garder les œuvres à soi. Hein. Ce qu'il y a de bien quand on est artiste, c'est qu'on peut. Rien ne nous oblige de vendre nos œuvres. Ce n'est pas parce qu'on participe d'un marché que parallèlement on ne se réserve pas des œuvres. Je pense que c'est le cas de tous les artistes. Et l'invention de l'épreuve d'artiste est aussi quelque chose d'intéressant. C'est qu'elle pointe aussi cette réalité-là.
Non, je disais que c'est pas si simple. Merci, Jean-Pierre. Sur la question du refus de vendre, évidemment, mais en même temps, là, je fais un petit pic aux collectionneurs en général, c'est que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'avais un grand dessin que je ne voulais pas vendre, la galerie l'avait, mais je voulais le garder, et puis il a été montré, et il y a un collectionneur qui a une grosse collection, qui est très puissant, qui voulait l'acheter, et comme j'ai refusé, ma galerie m'a fait pression, ça a été compliqué, et depuis, ce collectionneur m'en veut, et donc c'est pire, j'ai une drôle de relation maintenant avec lui et aussi avec la galerie sur une histoire justement parce que j'ai voulu garder ce dessin. Donc en même temps, il y a quand même c'est pas si simple pour les artistes. En tout cas, moi, j'ai pas de fortune, je vis avec mon travail. C'est pas si simple de dire je vends pas, je le fais, mais c'est pas. Parce que non, c'était pas une galerie. C'était pas une galerie. Mais la production avait été payée par la galerie, l'encadrement, etc., etc. Donc il y avait un investissement. Et quand il y a eu un collectionneur qui a voulu l'acheter, le refuser, c'était très compliqué pour moi parce que n'ayant pas les moyens, ne vendant pas très cher. Oui, j'entends bien cette utopie comme ça de faut choisir et tout, d'accord. Mais derrière, faut pouvoir. Parce que bon, Jean-Pierre Plain, mais il y a aussi le fait que bon, c'est un artiste historique, important, donc il peut aussi plus facilement faire des choix comme ça, ça a moins de conséquences, quoi. Et en même temps, quand il a fait, je me souviens de ça, cette rétrospective au Mamac, c'était un coup hallucinant. Moi, je l'imaginais avec un pistolet avec un seul trou, le reste rempli de balles, et boum, boum, boum. C'était dingue de prendre ce risque-là aussi en mettant autant de pièces sur le marché et d'inonder comme ça les choses. Enfin, je ne le connaissais pas à cette époque-là, mais ça m'a réconforté sur l'idée qu'il était comme ça radical. Ouais. Enfin bon.
Bon, mais nous allons conclure là-dessus alors. Merci beaucoup.